c'est Yvon pour Proxy Jeux. On est aujourd'hui au Festival Paris et Ludique, il fait un temps superbe. Je suis en compagnie de Fred Henry, l'auteur de jeux. Bonjour Fred, comment vas-tu ?
Yvon, très bien.
Très bien. Pourquoi es-tu là ? Quelle est ton actualité ?
Alors aujourd'hui, spécifiquement, donc je présente Bâtisseur 2 et surtout le Protoconan.
D'accord, donc le Bâtisseur 2, c'est la suite des Bâtisseurs Moyen-Âge, c'est
ouais,
ça ?
C'est Bâtisseur Antiquité, voilà, c'est un stand-alone. Donc je devrais pas dire Bâtisseur 2, je devrais dire Bâtisseur Antiquité, parce que c'est un jeu en soi.
D'accord, qui reste dans l'univers des bâtisseurs, mais qui évolue en termes de règles, c'est ça ?
Ouais, c'est légèrement, c'est plus core gamer, on va dire, parce que le but, c'est d'offrir à chaque fois des sensations de jeu différentes, et le premier n'était vraiment qu'un moteur, enfin, j'aime bien quand même, hein, mais c'est un moteur, le premier. Et là, l'objectif, c'est habiller un peu le moteur et donc là, d'offrir une arborescence de choix plus touffue. Donc là, il y a beaucoup plus de choix, c'est plus stratégique. Ça crée une interaction, il y a toujours de l'interaction indirecte, mais qui est beaucoup plus forte qu'avant. Parce que dès que tu choisis quelque chose sur... bon, là, on est à la radio, on ne voit pas, mais sur la ligne supérieure, tu en prives ad vitam aeternam tous tes adversaires. Voilà.
D'accord, donc là où les bâtisseurs étaient clairement familiales, les bâtisseurs Moyen-Âge étaient clairement familiales, les bâtisseurs Antiquité s'adressent à une catégorie de joueurs plus joueurs.
Oui, exactement, voilà. Je pense que c'est quand même beaucoup moins familial. Ça reste très abordable. En fait, quand tu connais Bâtisseurs Moyen-Âge, il te faut à peu près 30 secondes, une minute d'apprentissage de règles. Mais par contre, si tu connais pas Moyen-Âge, là, ouais, faut compter facilement 3 minutes.
Ça va, ça reste raisonnable dans l'explication des règles. D'accord.
Peut-être 4, hein. Je dis 3, mais c'est peut-être 4.
D'accord. Et donc, ton autre actualité, c'est un prototype qui s'appelle Conan, c'est ça ?
Ouais, puisque on s'est associé donc avec les frères Bombix pour créer une nouvelle petite boîte dédiée à Conan pour l'instant. Donc, on a appelé Monolith. Moi, c'est ma grosse activité parce que c'est à peu près 95% de mon temps libre aujourd'hui. Enfin, de mon temps libre, de mon temps tout court. Donc je passe mon temps sur Conan, c'est un très 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 gros budget, Conan. On a réuni avec les frères Bombix énormément d'argent, 110 000 euros. Moi, je mets en gros tout ce que m'a rapporté Timeline me sert de trésorerie Conan pour l'instant. Je mets tout parce que le but c'est d'offrir, ça va être un Kickstarter, mais c'est d'offrir en amont déjà un produit totalement fini, sans délai de... entre le moment où le Kickstarter sera terminé et le moment où les gens recevront leur boîte, il se passera simplement le délai de prod. Tout sera vraiment prêt. Ce ne sera lancé que lorsque tu seras prêt et c'est un investissement. Je prends souvent l'exemple d'aventureur. Aventureur, l'investissement avant production d'une boîte d'aventureur, c'est 20 000 euros. Voilà, on est à 110 000 euros avant même que la première boîte soit créée. On se sert de Kickstarter comme je pense devrait être utilisé Kickstarter, c'est-à-dire pour faire des projets pharaoniques. Et la prise de risque, parce qu'il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le fait de reporter la prise de risque sur les clients. Donc là, on rééquilibre le truc en nous-mêmes prenant des risques. Et donc nos risques, moi, c'est simple, je mets tout ce que j'ai de côté. J'ai plus un sou en banque, je mets tout sur pour préparer le Kickstarter. Mais j'y crois beaucoup parce que c'est un... De toute façon, je veux me faire plaisir, j'ai pas de famille, c'est aussi un choix, mais je veux dire, j'ai rien à perdre. Si personne va pâtir, si c'est un échec, personne d'autre que moi n'en pâtira. Donc, j'en partirai, c'est pas la fin du monde. Mais je j'y crois.
Et c'est quoi le pitch alors du jeu ?
C'est très simple. C'est pas très simple, mais le pitch très global. Hein. On va jouer, c'est un jeu. Semi-collaboratif asymétrique, il y a quelqu'un qui joue le mal ou l'adversaire ou je ne sais quel autre nom pour une entité du mal, le nécromant, etc. qui lui a son système de règles propre et les héros qui ont leur propre système de règles. Les deux systèmes sont très proches mais néanmoins différents et le but c'est de sur une map précise par scénario ou parfois des scénarios à plusieurs maps, il y a 6 maps différentes dans la boîte de base, d'avoir une aventure. C'est vraiment un jeu à scénario avec des buts. Là par exemple, ce que tu peux voir, les gars essayent d'aller dans un camping pour récupérer une princesse qui était capturée au cours d'un raid, récupérer aussi ce qu'ils peuvent des biens qui ont été pris dans le raid et ramener la tête au roi, ramener la tête du chef picte. Donc exfiltrer la fille et ramener la tête du chef pour venger sa fille qui avant le raid était encore vierge, malheureusement c'est la seule femme du village.
Et donc là avec Conan en fait tu passes de l'autre côté du miroir, tu ne te contentes plus d'être auteur, tu deviens aussi éditeur à part entière.
Ouais, enfin j'avais déjà fait des tentatives, plus ou moins, j'avais déjà fait une tentative avec Pulsar,
avec
Guillaume. J'avais déjà, j'ai toujours j'avais une part de co-éditeur initialement sur Timeline. En fait, j'avais déjà fait des emprunts. Ouais, voilà, j'avais fait des emprunts déjà pour. Initialement, c'était de l'emprunt bancaire, et là, je m'autofinance grâce à Timeline. Maintenant, c'est l'argent de Timeline. C'est marrant parce que mon premier emprunt bancaire m'a permis de financer Timeline et une partie, on va dire, de Pulsar. Et aujourd'hui, Timeline me permet de financer Conan. Donc, c'est un. Pour l'instant, je réinvestis tout le temps. Je réinvestis. Si ça marche, je pourrais mettre de côté. Pour l'instant, je peux pas me permettre, on va dire. Mais par contre, j'ai envie de faire les choses en grand. Enfin, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, et puis on verra.
Et pour en termes de délai, Conan, a priori, ça sera le Kickstarter, ça sera quand? Et pour une sortie prévue quand?
Alors, le Kickstarter. Donc, on avait prévu ça initialement en septembre. Là, après, là, on a eu une troisième réunion avec le fabricant. Moi, je veux être sûr de qu'il n'y ait pas même deux jours de retard. Donc, je préfère reporter au 1er janvier pour lancer le Kickstarter. Donc on ouvrira le 1er janvier, mais là c'est sûr, parce que cette fois on aura vraiment tout le matos, toutes les figurines auront été sculptées, tous les moules, tout quoi. Et donc ce sera le 1er janvier, et la sortie, il sera produit, alors une sortie sûre, aucun problème, donc pour Gen Con, donc mi-août 2015, et peut-être avant. Donc si tout se passe bien, les bakers auront la chance de recevoir leur boîte avant la Gen Con. Mais au pire, c'est vraiment impossible qu'on rate la Gen Con. De toute façon, on n'a pas le choix, il nous faut la Gen Con. Donc voilà.
Tu vois autre chose à ajouter?
Non.
Alors c'est parfait. On te remercie de ta disponibilité. On te souhaite un bon festival.
Je te remercie.
Bonjour, c'est Yvon au Festival Paris Ludique. Je suis maintenant en compagnie de Charles Chevalier. Bonjour Charles.
Bonjour.
Tu es donc auteur de jeu?
Oui.
Peux-tu nous rappeler ton historique en termes d'auteur de jeu?
L'historique, c'est assez rapide. En fait, je suis revenu au jeu moderne en 2007, donc assez récemment. En 2009, on a commis avec Catherine Dumas et Pascal Pelmans un trigo, enfin, qui est devenu un trigo, c'était Saint-Benoît, avec lequel on a gagné Boulogne-Billancourt, le concours, qui nous a ouvert les portes de l'édition. Et donc depuis, j'ai personnellement sorti 12 ou 13 jeux, je ne sais plus. Donc des jeux comme jeux enfants, type Jurassic Kenya, des jeux, on va dire, familiaux, comme Sultania, ou Cappuccino. Et des jeux un peu plus costauds comme Abyss ou comme Monte Cristo.
Et aujourd'hui à Paris Ludique, tu es présent pour une actualité particulière?
Oui, en fait, Sultania est sortie depuis 15 jours, enfin à peine. Donc c'est vrai que c'est un jeu familial plus, comme on le dit dans le jargon.
D'où l'accoutrement ridicule que tu avais ce matin, c'est
voilà,
ça?
Heureusement que c'était une interview radio. C'est oui, on m'a gentiment préparé un costume de sultan, donc j'ai été forcé de. J'ai signé par contrat, donc oui, évidemment on s'amuse, on est là pour s'amuser et on fait des animations aussi. Donc oui, Sultania, c'est un jeu familial, un jeu donc très simple d'accès. On peut construire des palais des mille et une nuits avec des dominos. Et sauf que chacun va avoir des comptages spécifiques, donc on va être en concurrence avec chacun des autres personnages des mille et une nuits pour tel ou tel élément architectural dans le palais, et avec des comptages secrets, des objectifs secrets, des génies qui nous permettent des petits coups un peu voilà. Donc c'est un jeu très simple, très apprécié, parce que chacun à la fin, même si on ne gagne pas, a construit son palais, donc on voit les gens prendre des photos de leur palais.
Et sinon, pour le futur, tu as des projets, des protos bientôt édités?
Oui, en fait, cette année, il va y avoir deux autres jeux. Un autre chez Bombix, qui fait pas mal de bruit, qui s'appelle Abyss, qui est fait avec Bruno Catala. Donc, c'est un jeu à quatre mains, un jeu qui est déjà plus costaud, dans le sens où c'est un jeu qu'on qualifie de gamer. C'est toujours un jeu, Bruno, comme moi-même, on aime les jeux quand même assez rapides. On essaye de donner les mêmes sensations de jeu que des jeux qui durent 2-3 heures, mais dans un temps assez court. Donc c'est un jeu qui va fonctionner sur la collection, les combos, combinaisons, et le développement. Donc il y a beaucoup beaucoup de choix, assez drastiques à chaque niveau, à chaque fois qu'on joue. Et c'est un jeu qui plaît beaucoup par sa rejouabilité, par son univers graphique aussi, parce qu'il y a Xavier Colette, qui a d'ailleurs aussi dessiné Sultania, illustré Sultania, nous a fait un travail démentiel. La prod de Bombix, c'est juste fabuleuse, avec des perles, des plateaux, des...
J'ai d'ailleurs entendu dire qu'il y aurait plusieurs couvertures différentes.
Oui, alors il y a 5 couvertures différentes, une par guilde, on va dire, de Seigneur Abyssal. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit sur le net, parce que bah, c'est la première fois qu'on fait ça. Déjà sur une grosse boîte, de ne pas mettre le nom, d'avoir le cran, de mettre juste les têtes de triton comme ça, pleine page. Ça a déjà fait couler beaucoup d'encre, et le fait qu'il va y avoir un choix. Donc vu que c'est un jeu gamer, dans la boutique, dès le départ, les joueurs vont devoir choisir une boîte. Et ça n'a même pas l'air trop simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Mais non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, je vais devoir acheter les 5. »
C'est pour quand ça?
Alors ça, c'est pour la Gen Con, donc c'est fin août, et c'est première semaine de septembre en France. Voilà.
D'accord, et tu as un autre jeu qui doit sortir ?
Oui, il y a un autre jeu cette année, donc qui s'appelle Wakanda, qui est un jeu donc qui se passe donc chez les Indiens, les Sioux, ça veut dire objet sacré. C'est chez Blue Orange, l'éditeur. C'est un jeu à deux, donc dans la même gamme qu'un Longhorn, de Bruno Catala d'ailleurs. Et donc c'est un très beau jeu avec des totems en bois qui vont monter, et chacun va prendre des totems, s'approprier des totems. Donc jeu très simple et avec une belle profondeur. Et là je viens de découvrir le prototype finalisé, on va dire. C'est vraiment splendide, c'est-à-dire c'est une production, j'ai beaucoup de chance cette année. Les trois jeux sont...
Et donc ça c'est pour quand ?
C'est Essen, donc c'est octobre, fin octobre.
D'accord.
Il sera disponible à Essen, et donc à, on va dire, novembre dans les boutiques françaises.
Très bien. Tu vois autre chose à ajouter, des projets pour l'année prochaine ou...
Ah oui, il y a déjà deux jeux signés, mais bon, c'est compliqué d'en parler parce qu'on n'a pas le nom, on n'a pas le... Voilà, on est en train de définir tout ça. Mais oui, il y a déjà d'autres projets. Bah, évidemment, je me balade avec mon sac rempli de prototypes. Et bon, bah, donc pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, donc oui, il y aura au moins deux jeux l'année prochaine de signer.
Bon, et le festival se passe bien ?
Le festival, c'est super. Il n'a même pas vraiment plu. Il y a eu quelques gouttes. Donc cette année, on va avoir du soleil. Il y a plein de monde. On a des tables pour jouer, ce qui est assez rare dans les festivals. Quand on va à Cannes ou à Essen, c'est vraiment tout est pris d'assaut. Ici, il y a des tables. Alors, évidemment, il y a de l'attente parce que les jeux sont demandés. Mais bon, franchement, on peut faire des dizaines de parties par jour, ce qui est rarissime. Et en plus, il y a une très très bonne ambiance due au soleil. Tout le monde est en short, en t-shirt, et voilà, c'est super sympathique.
Eh bien, Charles, merci beaucoup pour ta disponibilité.
Merci à vous.
C'est Yvon, en direct du Festival Paris Ludique. On est samedi, il fait extrêmement beau. Je suis actuellement en compagnie de Yves Hirschfeld, auteur de jeux, entre autres. Bonjour Yves, comment vas-tu ?
Ah, salut Yvon, trop content de te voir. Tu mets toujours des conneries sur Twitter.
Ça m'arrive, oui. Bon Yves, sérieusement, tu viens d'où ?
Tu veux dire géographiquement ou dans ma vie ?
Philosophiquement, je pense.
Alors, je suis une sorte de créatif, multi-carte, multifonction, protéiforme. Je fais à la fois du théâtre en tant qu'auteur, metteur en scène. Je fais de la télé en tant qu'auteur, réalisateur. J'écris des bouquins pour enfants déconneurs. Enfin, des bouquins déconneurs pour enfants. Des bouquins déconneurs pour adultes. Et puis accessoirement des jeux de société. Donc ça fait beaucoup de choses, mais en fait tout ça c'est le même métier. C'est une forme d'expression qui est protéiforme, qui a plusieurs sources.
Et donc pour le sujet qui nous intéresse, les jeux de société, tu as fait quoi comme jeu, quoi comme nom de jeu et comme type de jeu ?
En fait j'ai la chance d'avoir fait pas mal de jeux. Et surtout la chance, parce que c'est pas toujours que ça m'arrive dans ma vie, d'avoir fait des jeux avec d'autres copains qui étaient plus courageux que moi pour affronter les commerçants, les fabricants, les éditeurs surtout, qui allaient de l'avant une fois qu'on avait fait un jeu dont on était très, très fiers. Ils allaient tellement bien de l'avant qu'ils m'ont mis un peu le pied à l'étrier. Et j'ai eu la chance d'avoir des co-succès. Comme par exemple, un des plus importants, c'était le jeu Ambition en 87, que je vois dans la boutique derrière d'ailleurs. Le jeu Ambition, ouais, j'en ai vendu, mais énorme quoi, genre 150 000. Et donc après, quand tu es crédible un peu comme ça, Et moi qui suis plutôt timoré pour vendre, pas spécialement dans la vie, mais pour vendre, j'aime pas me vendre. Quand t'as fait un jeu qui a bien cartonné, c'est plus facile, évidemment, d'aller voir d'autres éditeurs. Donc j'ai vraiment le pot parce que à chaque fois, j'ai trouvé des gens qui m'ont écouté. Et je dois dire que par rapport au théâtre ou à la télé, dans le jeu de société proprement dit, les gens sont quand même plus sympas, plus accueillants que dans bien des métiers de merde que je connais pourtant par cœur. J'ai bien répondu, Yvon, tu me dis, hein.
C'est parfait. Et donc, alors 1987, Dédé Schütz et moi, on n'était pas nés, donc on n'a pas connu Ambition. Et par contre, je sais que tu as fait des jeux récemment. T'as fait quoi, par exemple, comme jeu ?
Alors, après Ambition, j'ai eu d'autres jeux, etc. Mais enfin, je vais passer dessus. Mais ces dernières années, j'ai fait, alors avec mon copain Fabien, le jeu Ta gueule, qui cartonne, je reconnais, qui était vraiment un jeu très crétin, mais en même temps avec une petite profondeur. Du coup, on a fait Ta gueule d'amour, qui est une extension. Et puis, j'ai fait ensuite un jeu qui s'appelle Trop con, du verbe troquer, parce qu'on reste courtois, qui est un jeu un petit peu intellectuel, mais dans une démarche simple, intellectuelle, fantaisiste. Et puis, j'avais fait... Ah oui, non, j'ai oublié. Chez Cocktail Games, il y avait le jeu Speech, qui marche très, très bien aussi. Enfin, je lui ai demandé tout à l'heure. Encore un jeu d'imagination et tout. J'avais fait aussi à une époque, et à chaque fois, ça ressort chez un autre éditeur, le jeu Comédia, basé sur les cours de théâtre que je donnais, des thèmes d'improvisation. C'est à la fois culturel, pareil, déconneur si on a envie, etc. Et puis, donc trop con, et ben là, on sort avec Fabien, on sort un jeu qui s'appelle « Comment j'ai adopté un gnou ».
Ce titre, c'est une blague ?
Alors oui, c'est une blague, mais c'est aussi un titre, effectivement.
Et sinon, le gnou, il va bien alors, depuis que vous l'avez adopté ?
Alors, effectivement, pour refaire ce jeu, je me suis mis en situation et j'ai adopté un gnou. Je ne pourrais pas te dire que tout se passe à merveille à la maison. Ma femme est parfois un petit peu quand même fâchée, légèrement, hein, notamment quand il se laisse aller un peu dans le salon.
Et avec le crocodile, ça se passe bien ?
Le crocodile, ça se passe beaucoup mieux. De toute façon, tu sais bien que dans la vie, tu as besoin de bras. Donc je lui parle les bras dans le dos pour être sûr qu'il me les croque pas, mais en principe, tout va bien.
Et donc, quel est le principe de « J'ai adopté un gnou » ?
Alors, le principe de « J'ai adopté un gnou », c'est un peu un pari. Il est question de faire vraiment, je sais que ça n'existe pas spécialement, mais là, c'est vraiment le cas, un jeu à la fois pour les adultes, pour vraiment s'amuser, se dire des vannes, des conneries énormes, mais aussi, c'est un jeu qui est très intéressant dans le monde du parascolaire, de l'apprentissage de la langue. C'est vraiment, c'est très tranché. On s'est d'ailleurs organisé pour ça. C'est un jeu dans lequel on peut se laisser aller au pire délire, à hurler de rire, mais aussi vraiment travailler l'expression, le mode du langage, etc. Donc si tu veux que je m'avance dans la règle, je peux. Mais...
Donc pour être juste un peu plus technique, là j'ai une boîte sous les yeux, un prototype. Donc au niveau du matériel, on a des dés sur lesquels sont indiquées des coordinations de phrases. Par exemple, là sur le dé que j'ai dans les mains, il y a une phase où il y a marqué « et le pire », une autre phase où il y a marqué « moi tranquille », une autre phase où il y avait marqué « j'avais prévu le coup », etc., etc. Il y a un certain nombre de dés comme ça. Il y a des thèmes qui permettent de définir le sens de l'histoire, le sens général de l'histoire. On choisira un thème en fonction d'un jet de dés en tout début de partie. C'est à peu près bien résumé ?
Oui, c'est ça. En fait, exactement. On choisit un thème. Bon, il y a une règle pour ça très simple. On choisit un thème. On a deux choix à chaque fois. Et les dés sont des connecteurs du cerveau. Et ils remplacent. C'est-à-dire ils font rebondir. Dans Speech, par exemple, il y a des images qui sans arrêt te détournent de ton histoire. Là, au contraire, ce qui est écrit sur le dé t'aide à te relancer et tu perds jamais le fil de ton histoire. Et donc, au fur et à mesure, tu les jettes quand tu veux et tu continues ton histoire. Et il y a aussi un dé de contre que tu as oublié, où les adversaires peuvent à tout moment lancer ce dé de contre sur lequel il y a écrit, par exemple, ça c'est faux, ou alors c'est vrai d'ailleurs, ou hop, 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 ou ça me rappelle. Ce qui fait que les autres peuvent intervenir de temps en temps, ça crée des interactions, ça rend le jeu principalement encore plus débile.
La date de sortie du jeu ?
Écoute, je crois que c'est vraiment prévu pour septembre. Notre camarade éditeur du droit de perdre, François Lang, est en train de s'activer avec nous, mais enfin dans son coin, pour faire une jolie boîte. Et il pense 2 mois, donc ouais, ça va faire à peu près septembre, quoi, pour Noël. J'ai hâte d'en donner un à ma mère.
Tu veux autre chose à ajouter ?
Qu'est-ce qu'on mange ?
Il y a de la quiche préparée par Alexis.
Eh bien Yves, merci. Et puis je te souhaite un bon festival.
Ouais, c'est adorable. Et Yvon, tu continueras à envoyer des conneries sur Twitter ?
J'y manquerai pas. Merci. Bonjour, c'est Yvon en direct de Paris Ludique. Je suis...
C'est Yvon.
Ça va être compliqué. Je suis en compagnie de Fabien Bleuze, entre autres auteur de jeux. Bonjour Fabien.
Bonjour Yvon. Bonjour les internautes.
Les poditeurs, on dit.
Les poditcastones.
Fabien, aujourd'hui, tu es entre autres auteur de jeux, mais tu as fait quoi avant ?
Oh mon Dieu, sombre histoire. Qu'ai-je fait avant pour en venir ici, en fait, pour faire auteur de jeu ? Eh bien, c'est un peu le hasard de ma vie. En fait, je suis chef comptable dans une multinationale. Non, je déconne. Non, ben en gros, je sais pas si vous connaissez mon ami Virchfeld, qui est co-auteur de la totalité des jeux que j'ai sortis. Et en fait, on est tous les deux issus... du musical un peu, hein, de la télévision en fait. Voilà, on est comme j'aime le dire, nous sommes pilotes d'essai. C'est-à-dire que nous avons fait de nombreux pilotes pour la télévision. Et notamment à Canal+, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire des pilotes, on faisait des pilotes, on les montrait à la production. Et puis les gens disaient on adore, mais on a trouvé autre chose de mieux. Voilà. Donc à chaque fois qu'une production ne voulait pas faire une émission qui marche, ils venaient nous voir. On a d'ailleurs énormément de pilotes que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur internet pour la plupart. À la limite, je vous donnerai les liens, c'est assez drôle. Il y a des trucs super, je ne comprends pas pourquoi. Il y a un truc, ça s'appelle Game of Thrones, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, bon, ça n'a pas marché. C'était un truc qui se passait dans les toilettes, sur un trône, enfin bon, voilà. Et bien avec Yves, donc en fait Yves était déjà issu lui du monde ludique, ayant sorti un super jeu qui s'appelait Ambition à l'époque. Et puis il m'a dit, écoute Fabien, force de faire des bêtises ensemble, ça se dirait que, entre autres, parce qu'on en a fait plein de trucs quoi ensemble, il fait entre autres ça dirait qu'on essaye de faire un jeu. Et il dit ben pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire un premier jeu qui s'appelle toujours d'ailleurs Speech. Qu'on a
chez Cocktail Game.
Exactement, qu'on a vendu à notre ami Mathieu, qu'on a proposé. Bon, on l'a vendu à notre ami Mathieu. Et à Cocktail Game, donc exactement. Et ce jeu d'ailleurs qui vit sa vie, puisque maintenant il est édité aux États-Unis, exactement. D'ailleurs dans pas mal de pays du monde, en Corée dernièrement. Ouais, du Nord, il n'y a qu'une seule image. C'est Lien Jong-Tong. Mais bon, c'est le principal, hein, c'est qu'il soit représenté là-bas. Non, il est en Corée du Sud, il y a 3 images. Et je sais plus. Oui, là, donc effectivement, il est revenu d'ailleurs aux États-Unis, il s'appelle Telltale, il est devenu Ferité, il est revenu en France, il est reparti de nouveau aux États-Unis. Pour une édition prochaine dans chez un distributeur dont je peux pas dire le nom, dont l'image est une souris avec des grandes oreilles. Et donc on a fait ça. Et puis on a un jour on dit à Mathieu, écoute, on a un super projet à te proposer qui s'appelle Ta Gueule, qui est Ta Gueule, T-A-2-G-L-E, qui est un jeu de répartie fort amusant. Et Mathieu a dit non, je peux pas faire ça puisque moi ma gamme elle est familiale. Donc il m'a dit va voir ailleurs. Effectivement on est parti ailleurs. 2 jours après il sortait Casse-toi pauvre con. Bon, c'est familial aussi. Mais donc on a traversé la route et on s'est retrouvé chez notre ami François Lang, qui est donc le patron de la maison d'édition Le Droit de Perdre, qui est donc le créateur et l'éditeur de Questions de Merde. Et quand on est arrivé avec notre concept de ta gueule, ça rentrait vraiment dans sa gamme, puisque comme son nom l'indique, Le Droit de Perdre est une maison d'édition qui fait des jeux où on s'amuse plus qu'on compte les points. C'est pas des jeux pour cube en bois. Ça a dû monter dans le son là, non? Bois. Bois. Et nous avons donc sorti ta gueule, qui a eu son succès, qui l'a toujours d'ailleurs, qui est toujours un succès grandissant. Dans la foulée, ta gueule d'amour. Ensuite,
si c'est pas indiscret, ta gueule, c'est combien d'exemplaires vendus environ?
Oh, y a ma mère, elle en a pris deux. J'en ai donné un à mon beau-frère, trois. Yvon, je crois que tu m'en as piqué un, ça fait quatre, donc on n'est pas loin.
Tout le tirage a été vendu en fait.
Voilà, mais on les fait nous-mêmes en fait. Voilà, j'ai avec ma fille qui a 5 ans, c'est elle qui écrit à la machine à écrire et puis les textes. Et on fait des boîtes avec des boîtes à chaussures, voilà. Non, je sais pas, on est, y en a 5000 exemplaires à chaque fois, on est à la 5e-6e édition, donc voilà, faites le calcul.
Donc entre 20 et 30 000 exemplaires vendus, en tout cas tirés en cours de vente.
Exactement, mais j'ai peur de peut-être dire une bêtise. Un grand problème, c'est
que... Ça sera pas la première.
Méchant. Faut demander à François. François, ah, il est pas là. Non, je pense, à vérifier, faut les taper sur Google. Et donc, la suite, il y a Trocon qui vient de sortir, là, où je suis l'aide cérébrale de notre ami Yves.
Et quel est le principe de Trocon en deux mots?
Trocon, c'est très simple, c'est nous sommes de grands penseurs, des grands penseurs, des grands philosophes, et nous allons faire des phrases, des maximes, des proverbes magnifiques, soit profonds, soit drôles. Et pour cela, nous avons trois tas de cartes dans lesquelles il y a des sujets, des verbes ou des morales, et c'est un peu comme un cadavre esquis. On va choisir, par exemple, un sujet.
Un petit exemple par Yvon. Alors,
on veut le temps. Alors, par exemple, dans un sujet, j'ai la vérité, un verbe qui est « te paraîtra dérisoire », et une morale qui dit « voilà comment trouver du sens ». Voilà, bon, c'est pas mal, ça veut dire quelque chose, mais je suis sûr qu'on peut sublimer cette carte. Donc, comme le jeu s'appelle Trocon, nous allons troquer nos cartes. Donc, ma morale, voilà comment trouver du sens, je vais la troquer avec un des joueurs. Et par exemple, je vais la trouver au fond de ton lit. Voilà. Bon, voilà, la vérité te paraîtra dérisoire au fond de ton lit. Moi, j'aime bien.
C'est très philosophique.
Voilà, donc je vais lire cette phrase à haute voix une fois que j'aurai choisi, une fois qu'elle me plaira, quoi. Et soit les autres joueurs vont comprendre cette phrase et vont faire « Oh, c'est beau !»
Oh,
c'est oh.
Soit ils vont rien comprendre, ils vont dire mais qu'as-tu voulu dire par là? Et voilà. Et donc je vais essayer d'expliquer cette phrase par mes propres moyens. Surtout limité. C'est drôle, limité, voilà. Surtout quand j'ai pas compris la phrase en question. Donc voilà. Et puis à la fin, nous avons deux petits messages, deux petites cartes sur lesquelles il y a marqué t'es génial et t'es trop con, et on me donnera en fait on donnera une valeur à la phrase des autres joueurs. En donnant une carte à quelqu'un, t'es génial à un autre ou t'es trop con à l'autre en fonction de la qualité de sa phrase. Excusez-moi, je suis un peu asthmatique.
C'est pas grave. Quelque chose à ajouter
Eh ben, je vends une mobilette, une 104, 400, quitté Carbut 18. Et éventuellement, prochainement, un nouveau jeu. Qui s'appelle Comment j'ai adopté un gnou, qui est un jeu. Pour raconter des histoires, qui est à la fois familiale et un peu adulte.
Sois franc, t'étais bourré quand t'as trouvé le titre?
Non, j'ai vraiment adopté un gnou. En fait, ça s'appelait avant comment je me suis cassé un genou. Et quand je lui ai expliqué, c'est ma fille qui tapait à la machine à écrire. Elle a oublié quelques lettres. Et c'est devenu comment j'ai adopté un gnou. Non, en fait, c'est une série de sujets un peu, soit pareil, profond ou complètement absurde, qui sont sur une carte qu'on va tirer au sort, et on a une série de dés qui sont tout simplement des connecteurs où est donc Ornicar, voilà, etc. On a un dé de début, un dé de fin au milieu des connecteurs, et puis on se laisse porter, on raconte en s'inspirant du sujet imposé, on se laisse porter par le choix des dés et les choix aléatoires des dés, du genre l'autre jour je suis rentré chez moi, il y avait un éléphant dans ma cuisine, qui est un des sujets, bien sûr, du jeu. Et je jette l'autre dé et je tombe sur mai. Mais c'est normal puisque je suis gardien de zoo. Exactement, voilà. Voilà, ce jeu sort, si tout se passe bien, au mois de septembre. Et on aura l'occasion d'en reparler sur cette super web radio. Web radio.
Merci Fabien.
Écoutez, c'est un plaisir. On s'en va quand?
Écoute, a priori pour l'heure de l'apéro.
J'arrive.
Bonjour, c'est Yvon en direct du Festival Paris Ludique. Il fait toujours aussi beau, on est samedi. Je suis en compagnie d'un auteur, Lionel Borg. Lionel, bonjour.
Bonjour Yvon, enchanté.
Moi de même. Lionel, tu es aujourd'hui sur Paris Ludique en tant qu'auteur de jeu. Tu as sorti un jeu qui s'appelle Awaiki, c'est bien prononcé ?
Oui, tout à fait. En fait, le jeu est sorti aujourd'hui même. Donc j'ai fait le déplacement entre autres pour ça, puisque c'est aujourd'hui pour la première fois qu'il rencontre le public dans sa version définitive.
Très bien. Mais avant Awaiki, on va reprendre juste un petit peu l'historique. Tu es l'auteur d'autres jeux.
Alors oui, en fait, donc j'ai actuellement, il y a à mon actif, on va dire qu'il y a deux jeux chez les 12 singes, donc Coconuts et Diams, deux jeux chez Gigamic, Colourpop et Fish Fish, et maintenant Awaiki qui sort et un autre qui est prévu chez Matago pour la fin de l'année.
Et comment t'es arrivé au jeu de société ? Parce que j'imagine que tu n'es pas auteur professionnel qui vit exclusivement de ça.
Alors en fait, mon arrivée dans les jeux de société a un rapport avec Matago. Parce qu'à la base, je suis joueur de jeux de rôle, MJ de jeux de rôle, scénariste de jeux de rôle. Et en fait, j'ai fini la campagne Pestilence chez Matago, puisque en fait, l'auteur d'origine n'avait plus le temps de le faire. Et j'ai rencontré Hicham de Matago, on a discuté et je me suis proposé de faire la suite. Ce qui a été le cas, en fait, j'ai sorti donc le tome 3 et les tomes 4 et 5 de la campagne de Pestilence. Et je me suis retrouvé un peu projeté dans l'édition comme ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le jeu de société que je découvrais un peu à la même époque. Donc je m'y suis mis, ça a été une catastrophe au début, un peu moins par la suite. Et puis j'ai dû faire des jeux qui n'étaient pas mauvais, puisqu'il y en a 5 qui sont édités aujourd'hui.
D'accord. Et donc ça, c'était à quelle époque, en quelle année ? C'est 2005 ?
Oh, non, bien plus tard. C'était ça devait être en 2010, je pense.
Donc Awaiki, tu peux nous expliquer le principe en une minute ?
Pour l'expliquer, en fait, je vais utiliser un petit peu ce qu'en dit Arnaud Urban, l'éditeur. En fait, c'est le mariage improbable entre le Uno et le Gang of Four. C'est-à-dire que c'est un jeu de défausse qui reprend le principe du 8 américain ou du Uno. Et la différence qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a 3 défausses et il faut essayer de créer des combinaisons sur ces défausses pour activer des pouvoirs qui vont nous permettre de nous débarrasser de nos cartes plus vite et aussi de retarder la défausse des autres en les faisant piocher.
Ok. Il
faudrait parler de...
Et est-ce que tu as un proto dans les cartons ?
Alors, proto dans les cartons, j'en ai plusieurs. Après, un qui va sortir, oui, il y a Metal Adventures, le jeu de cartes ou le jeu de plateau. Le nom n'est pas encore arrêté, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année chez Matago, qui est un plus gros jeu, négociation, objectif secret et affrontement dans l'univers du jeu de rôle de Arnaud Cuidet, ce qui est amusant puisque ça permet de boucler la boucle, puisque je fais un jeu de société à partir d'un jeu de rôle, moi qui viens du jeu de rôle. Voilà.
Oui, moi je connaissais le jeu de rôle. Et donc j'ai hâte de tester ça.
Alors on a essayé, donc il y a toute une partie de travail sur ce jeu qui a été, parce qu'en fait le jeu avait au départ un autre thème et on l'a amené dans l'univers Metal Adventures. Et j'ai travaillé pendant plus de 2 ans en contact avec Arnaud Cuidet pour essayer de faire en sorte que le jeu colle au maximum au thème. D'après les retours des joueurs du jeu de rôle, c'est plutôt une réussite.
D'accord. Donc on pourra jouer des pirates, c'est ça ?
On pourra jouer des pirates, des gentils et des méchants, puisqu'on peut se trahir, attaquer les autres.
C'est prévu pour quand ?
Et le plus tôt possible, je l'espère. Non, je pense que là, on est vraiment dans les... La règle définitive devrait être validée la semaine prochaine. Tous les visuels sont quasiment prêts, donc je pense que SN, ça pourrait être pas mal.
Très bien. Tu vois autre chose à ajouter ?
Merci.
Bah merci à toi.
C'est en direct du Festival de Paris Ludique. On est encore et toujours samedi après-midi. Il fait toujours et encore un temps magnifique. Je suis en compagnie de quelqu'un, je ne sais même pas comment je dois l'appeler. Est-ce que je dois l'appeler David Bonifaci? Est-ce que je dois l'appeler Bonny? Est-ce que je dois l'appeler Bonny le Ludonote?
Non, c'est fini le Ludonote maintenant. C'est marque déposée maintenant le Ludonote. Non, Bonny, ça me va très bien.
Alors bonjour Bonny.
Bonjour.
Qu'est-ce qui t'amène à Paris Ludique?
Eh ben, ce qui m'amène, c'est la sortie de Hawaii Key et l'occasion de voir pas mal de monde du monde du jeu qui sont assez sympas et que j'ai peu l'occasion de voir parce que j'habite en province.
Donc sur Hawaii Key, tu es l'illustrateur?
Oui, c'est ça, graphiste, illustrateur. Ouais.
D'accord, mais dans ta carrière liée aux jeux de société, tu n'as pas été que illustrateur, tu as été aussi un peu, n'exagérons pas trop, auteur.
Oui, j'ai une courte expérience de co-auteur sur Ouga Bouga chez Cocktail Game. Ouais.
Et sinon, en termes d'illustration de jeu, tu peux nous raconter un peu ton historique, comment t'en es arrivé là et quels sont tes projets, etc.
Ah bah, rapidement, oui. Le premier jeu que j'ai illustré, ça devait être Ouga Bouga d'ailleurs. C'était entre Ouga Bouga et Cairn, qui était un jeu de pichenette préhistorique. Puis après, ça s'est enchaîné chez Ilopelli, chez Cocktail Game. Je travaillais avec les jeux Hopla aussi. Donc j'ai fait Migrato et Il était une forêt chez eux. Et j'ai fait Crazy Time chez...
Pour Il était une forêt, le matériel graphique n'était pas fourni par la production du film?
Non, on savait qu'on allait avoir quelques jours avant la production la couverture du jeu. Mais tout le reste, non. Donc j'ai dû créer les cartes en essayant d'imaginer ce qu'allait arriver. Enfin, Florent Toscano, donc l'auteur et l'éditeur, m'a beaucoup aidé. On imagine ce qui allait se passer dans le film et en fait on s'est pas trop trompé, donc c'était nickel, ça collait bien et voilà.
D'accord, et tu as des projets là dans tes cartons?
Alors après Hawaii Key va sortir au mois de juillet-août Zik chez Black Rock, un jeu de Cyril Blondel qui réunit, alors c'est un super projet pour un illustrateur graphiste parce que ça réunit 6 illustrateurs, donc des gens qu'on a déjà vus dans pas mal d'autres jeux. Et comme, alors, il y a Christine et Maeva qui ont fait Twiggles ou l'extension des loups-garous tiercelleux. Il y a Mélanie Fuentes qui a fait Fabula et Ladies and Gentlemen. Il y a Chiara Versecci qui est italienne, qui a fait Tea Time chez nous et d'autres jeux en Italie que l'on n'a pas vu. Et Tony Rochon qui a fait pas mal de jeux aussi, dont les derniers, ça devait être Armadora, 30 Carats, Octave Dugland et moi. Voilà, donc ça fait 6. Et donc on avait une petite mission très sympa, c'était on a un mouvement musical à illustrer avec quartier libre. Voilà. Et après il fallait faire la maquette et faire que le jeu tourne et le jeu est très beau.
Et c'est quoi comme style de jeu en deux mots?
C'est un jeu d'ambiance basé sur les chansons, sauf qu'on n'est pas obligé de connaître les chansons. Il faut juste en avoir entendu l'air une fois et on doit répéter cet air en suivant une suite d'onomatopées imposées. Donc on en a une, deux, trois ou quatre sur la table et on va devoir mimer, enfin chanter, joyeux anniversaire, mais avec crash, sping, boong, bling. Et les autres doivent pouvoir trouver ce que c'est. Donc un jeu purement délirant et qui sera sorti en exclusivité pour Ludibraise à Plus 4, normalement.
Et sinon, tu as d'autres projets?
J'ai en général toujours un jeu dans les tiroirs avec Ouilopelli ou les jeux Hopla qui sont deux éditeurs avec qui je travaille régulièrement, ou avec Envie de Jouer qui a fait Octoverso et Atypique dernièrement. Donc là il y a un jeu qui est pareil dans les tiroirs, mais tout ça, ça risque d'être des toutes fin d'année ou début d'année prochaine quoi. Donc cette année je pense que ça va être plutôt cool au niveau créatif.
Moi je voulais savoir pour Hawaii Key, est-ce que le temps que tu as passé à Hawaii pour t'inspirer, c'était pas trop difficile?
Non, surtout que là j'ai envoyé mes notes de frais la semaine dernière, donc j'attends, normalement tout est remboursé. Non, c'est Hawaii Key, c'était assez génial parce que pour quelqu'un comme moi qui est graphiste avant d'être illustrateur, on fait un retour aux sources, on fait du logo, on fait pas du dessin en fait là, et c'est un pur plaisir de faire les illustrations d'Hawaii Key, et ça s'est senti sur le temps de production.
Et ça tombe bien pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner.
Ça tombe bien pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, ce qui n'est pas tout à fait faux en fait, il faut le dire. Mais voilà.
Oui, c'est des dessins un peu genre tatouage hawaïen, tribal.
Oui, je sais pas du coup si l'auteur vous en a un peu parlé, mais le thème n'était pas arrivé comme ça, et quand on m'a dit on va illustrer un jeu abstrait, bon j'ai dit d'accord, mais... Et puis commence à arriver la discussion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai proposé les tatouages maori parce que ça m'avait traversé l'esprit. Et puis quand après on a commencé à avoir des partenariats avec un fabricant de tatouages éphémères qui sont dans la boîte, qui sont en vente maintenant dans les magasins, il y a les tatouages à Waikiki dans les grandes surfaces de jouets. Et quand j'ai appris que je pouvais mettre du tatouage sur le visage de Arnaud Urbon, donc l'éditeur, j'ai dit ok, super génial, on fait ça. Donc voilà.
Ok, donc on pourra avoir les tatouages au motif des cartes pour
oui,
jouer.
Ouais. Dans les grandes récrés déjà, et je sais pas ailleurs où, mais il y a donc déjà dans les boîtes, il y en aura, si on en demande, je crois, dans les boutiques, ils vous en fourniront, c'est des petits tatouages, des petits goodies. Et comme vous pouvez le voir à la radio.
Oui, on le voit bien.
Et puis sinon, il y a effectivement des planches avec le fabricant, et on achète la planche à Waikiki avec plusieurs tatouages, c'est à peu près les mêmes qu'il y a dans le jeu, quoi. Voilà.
Ok, ben merci pour cette interview.
De rien.
À bientôt. Bonjour, c'est Dédé Schutz. Je suis avec Yvon.
Bonjour.
Pour Proxy Jeux, et on est avec toujours à Paris Ludique le dimanche avec Tom Vuarchez. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous te présenter un peu pour nos auditeurs ?
Ouais, alors moi je suis donc un peu marginal dans le monde du jeu parce que voilà, je suis arrivé dans le monde du jeu il y a 20 ans maintenant avec un jeu qui s'appelle Jungle Speed. Donc c'était il y a 20 ans, c'était la préhistoire ludique quand même. Et
nous d'ailleurs on n'était pas nés, hein.
Voilà, c'est ça, vous étiez, personne n'était né dans ce festival de toute façon, là je vois que des petits jeunes. Et donc je suis arrivé dans le monde du jeu avec ce jeu sans connaître vraiment le jeu, j'étais joueur mais pas plus, sans plus. Et voilà, donc depuis j'ai pas vraiment quitté le monde du jeu. C'était un peu un accident quoi, je suis arrivé là-dedans un peu par hasard, et voilà, et depuis j'y suis, j'y reste.
Ok. Et on m'a parlé de l'Alidja. L'Alidja, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'Alidja, c'est une assemblée de joyeux lurons donc qui est née sur Trick Track à l'origine. L'idée en fait, c'était l'idée de départ, c'était juste de reprendre. J'en avais un peu marre en fait de l'ambiance très geek qu'il y avait sur Trick Track, de joueurs qui voulaient absolument qui étaient pro cube en bois à donf.
Je voulais faire du score.
Voilà, voilà le scoring à donf. Voilà, du scoring, faisons table rase, il faut le dire. Et en fait, on voulait reprendre les codes en fait intégristes pour se foutre de la gueule des cubes en bois.
Le fun ou la mort.
Voilà, le fun ou la mort. En fait, l'idée c'était juste qu'on voulait montrer que nous, en fait, on s'en fout de savoir honnêtement.
Dans le jeu de société, il y a de jeu avant tout, quoi.
Voilà, c'est ça. En fait, perso, je m'en fous un peu de savoir à quoi on joue du moment qu'il y a de l'ambiance autour de la table. Donc, en fait, on peut très bien se prendre la gueule avec un cube en bois et s'emmerder grave avec un jeu d'ambiance. Mais c'était juste que je voulais rappeler que les jeux d'ambiance, c'est un peu comme le shit qui est le point de départ pour la drogue dure, si tu veux. Moi, on peut fumer du shit sans avoir envie de prendre de la drogue dure. C'est possible. Et ben, l'Alidja, c'est pareil. On peut avoir envie de faire des jeux d'ambiance et de pas tomber dans cette chose qui nous rend complètement accro là, c'est cube en bois là, c'est dégueulasse.
Bon, et sinon tes derniers jeux, des variantes ou des nouvelles versions de Jungle Speed?
Ouais, alors donc il y a la dernière née, c'est Jungle Speed Safari, qui est passé un peu inaperçu malheureusement, parce que c'est une bonne version où on a vraiment renouvelé le truc. En fait, on est là pour le coup, Jungle Speed Safari est un peu victime du succès de Jungle, parce que les gens en démo me disent oh, ouais, c'est bon, super, je connais Jungle, c'est super, d'accord, j'adore, mais c'est bon, je connais. Donc on dit non, mais essayez quand même, c'est un peu différent. Et donc on les fait essayer, et là ils se rendent compte que c'est différent et ça leur plaît. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est le dernier né, qui est un jeu dont on est assez fier, quoi, un jeu qui s'adresse à des plus petits en fait, des plus familiales. Et puis il y a le Jungle Speed 20 ans qui sort à la fin de l'année, donc pour les fêtes quoi, qui est plutôt un produit Asmodée, voilà, où là on est assez peu intervenu, mais qui sera donc une version un peu luxe du Jungle Speed, du jeu de base, avec un pack de 80 cartes en plus, voilà, dans la boîte, et donc ce sera une boîte un peu luxe, sera sortie pour Noël.
Et sinon, t'as d'autres ovnis style Twinit dans tes cartons?
J'aimerais bien. En fait, Twinit, c'était vraiment le projet un peu casse-gueule qui a eu son succès public. Ouais. Ça a été très long.
Ça a été quoi comme tirage, et est-ce que ça y est, ça a écoulé?
Alors, il y a eu un tirage de 5000 exemplaires. Ouais. qui est pas vraiment tout à fait écoulé, il en reste, mais il y aura pas de retirage, ça c'est sûr. En fait, c'est vraiment un projet ancien. Moi, ça faisait 20 ans que j'avais ce truc dans les mains. Voilà, en fait, j'ai tout. Voilà. Moi, j'ai tout fait il y a 20 ans. Après, depuis, j'exploite. Hein. Depuis, je fais juste exploiter ce que j'ai fait il y a 20 ans. Non, mais c'est vrai que le Twin It, c'était un projet super long. C'était très long de trouver un éditeur. Bon, je sais pas si l'édition était parfaite. En tout cas, bon, le projet s'est fait. Il y a eu un bon accueil. Il y a une appli aussi iPad qui était faite par RepoProd, qui est je trouve vraiment sympa. Mais il y aura pas de retirage, c'est sûr. Ouais. Voilà. Et mon idée au départ, c'était même je m'étais dit, je sors pas le jeu tant que j'ai pas 5 affiches de prête. Et je voulais faire des affiches jetables. C'est-à-dire, on prend l'affiche, on la met dans ses toilettes. Dès qu'on a fini le truc, on balance l'affiche. Mais bon, voilà, il n'y en aura qu'une.
Mais sinon, donc ça veut dire que chez toi, tu as 5 modèles de Twin It disponibles ?
Non.
On peut payer pour avoir une affiche exclusive ?
Un cambriolage est en préparation, je crois.
Non, en fait, j'ai pensé à en faire 5 avant de réaliser la première. Et quand j'ai fini de réaliser la première, je me suis dit non, c'est pas possible, j'en ferai plus jamais ça. Je vais vraiment dingue, quoi. Non, c'est vraiment un boulot énorme, donc je le referai pas.
Bon, sinon, je vois que tu as un t-shirt Skull. C'est pas trop horrible de bosser avec Philippe Despalières?
Alors, je ne parle qu'en présence de mon avocat, ça c'est la première chose. Mais il se trouve que nous sommes assez peu à travailler avec Philippe Despalières, c'est vrai.
Donc, soit il choisit la crème de la crème, soit personne ne veut bosser avec lui, c'est ça que tu es en train de dire?
Alors, il faut de la crème très compréhensive. Non, il se trouve qu'en plus, maintenant on est voisins avec Philippe. J'habite à pas loin de chez lui. C'est vrai que bosser à distance avec Philippe Despalières, c'est pas super évident. C'est ce qui s'est passé pour Skull. Là, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Et donc là, on est en train de rebosser sur un projet ensemble où j'illustre. Donc là, ce sera une création parce que bon, Skull, moi là, j'étais arrivé derrière Rose Kippy qui avait déjà illustré le jeu. Là, ce sera une création d'illustration sur un jeu qui va être vraiment sympa. Dont je ne parlerai pas parce que seul Philippe Despalières peut en parler.
D'accord. Top secret.
Voilà. Mais voilà, et bosser avec Philippe, bon, en même temps, on se complète bien, c'est que il prend son temps pour le développement des jeux, et moi je prends beaucoup de temps pour illustrer, donc on se complète pas mal là-dessus, donc c'est pas mal. Je crois qu'on est fait pour bosser ensemble, parce que bosser dans l'urgence, c'est pas possible. Une vie ne suffira pas pour moi, c'est sûr. Il faut que je me réincarne, sinon j'aurai pas le temps de faire ce que je veux faire.
Bon. Et sinon, là, le pari ludique, t'en penses quoi ?
Eh ben, c'est très bien. Moi, c'est la deuxième année que j'y viens, c'est pas seulement. J'ai eu la chance de venir l'année dernière pour faire des démos de Jungle Speed Safari sous la tempête. Voilà, voilà.
C'est un temps ignoble tout le week-end.
Donc, c'était effectivement un peu ignoble. Là, c'est quand même nettement plus sympa. Et puis, ouais, bah écoute, c'est très familial. Voilà, c'est vraiment un public familial. Voilà, il y a quelques gamers, mais bon, c'est quand même un festival vraiment familial. Donc,
Et donc, beaucoup plus Lidja que Cubanbois.
Beaucoup plus Lidja, ouais, c'est clair.
Et du coup, on croise des gens bien.
D'ailleurs, il y a mon acolyte de la Lidja, Fabien Bleuze, qui est d'ailleurs celui qui bosse essentiellement en ce moment à la Lidja, parce qu'en ce moment, des derniers temps, je ne trouve pas grand-chose, qui a fait un truc pas mal, c'est qu'il a fait des chiottes Lidja et des chiottes Cubanbois.
Fabien, un mot à dire à propos de la Lidja ?
La Lidja, j'aime la Lidja, vive la Lidja. Youpi.
Voilà, on s'est rigolé à la Lidja.
C'est fun.
Bon, et à part Lidja vaincra, t'as autre chose à ajouter ?
Non, écoute, je vais aller me coucher là, je crois.
Bonne nuit, à la prochaine, merci.
Merci, merci à vous, salut.
Merci.
Donc toujours Dédé Schutz et Merlin, on est au stand Bombix avec Erwan. Comment ça va ?
Salut, ça va bien, merci.
Ça se passe bien le festival ?
Oui, oui, bah c'est la fin, donc on est un petit peu fatigué, mais c'était une excellente édition. On a eu le soleil en plus, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Tous les ans, il y a plus de monde. Les gens sont volontaires, jouent, voilà, c'est vraiment très agréable et ça se passe bien.
Qu'est-ce que vous présentiez cette année alors sur le festival ?
Alors, on présentait principalement nos nouveautés et les quelques jeux à venir. Donc, la grosse mise en avant qu'on avait cette année sur Paris Ludique, c'est Sultania. Puisqu'en plus, Charles Chevalier, donc l'auteur, était présent les deux jours. Donc, on avait plusieurs tables de Sultania qui est sorti il y a maintenant un mois à peu près. Et puis, on présentait Abyss, donc aussi de Charles Chevalier et de Bruno Catala. Donc ça, c'est un jeu qui va sortir pour la fin août. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait Souk aussi. Souk qui sort à la rentrée dans une petite boîte métal. Voilà, donc ça c'est deux prototypes plus la grosse nouveauté.
J'ai eu l'opportunité d'essayer Souk. J'ai eu la surprise de découvrir que c'était un jeu de Gary Kim. Donc de plus en plus d'éditeurs français s'intéressent aux auteurs asiatiques. C'est une démarche de votre part ou c'est lui qui démarche les éditeurs français ?
Alors c'est pas vraiment une démarche de notre part, c'est on nous a présenté le jeu, on nous a proposé le jeu. Le jeu, on est très très en retard. On l'a signé à Essen 2012. Voilà. Donc il a été beaucoup reculé. Initialement, il devait sortir en septembre 2013. Voilà. Donc on a énormément de retard dessus. C'était pas une volonté spécialement d'aller chercher des auteurs asiatiques. C'était juste une coïncidence. À l'époque, Gary Kim, je connaissais pas. Corio n'était pas sorti. Non, c'est juste qu'on a eu un coup de cœur pour le jeu. C'est pas vraiment une volonté spécifique. On prend les jeux au coup de cœur.
Et c'est un jeu qui est donc prévu pour Essen 2014.
Alors, un petit peu avant, on espère, pour septembre normalement.
Pour septembre, voilà.
Avec juste un an de retard.
Et sinon, vous avez des protos, des trucs qui vont sortir après ?
Alors oui, on a quelques protos, on a notamment les bâtisseurs. Alors il y avait Fred Henry qui était là pendant les deux jours, donc on avait les bâtisseurs antiquités en présentation qui doit sortir en octobre. Et puis on avait Fred a profité un petit peu de notre stand pour présenter aussi Conan, son jeu Conan, donc il a fait tourner tout le week-end.
Oui, les bâtisseurs donc antiquités, c'est un peu une suite de. On l'a interviewé Fred Henry samedi. Il nous disait que ouais, c'était un peu plus core gamer que familial.
Oui, c'est ça. Le premier, c'était vraiment l'initiation aux bâtisseurs. Le deuxième, il va convenir aux joueurs justement un petit peu plus avertis, donc ils veulent pousser un petit peu plus loin, ça enlève une petite part de hasard du haut tirage des cartes. L'objectif à terme qu'on avait, peut-être qu'on le fera pas, mais c'était de faire un bâtisseur par âge. Donc voilà, on a commencé par Moyen-Âge, Antiquité, il y aura l'âge de pierre, les temps modernes et l'époque contemporaine. Voilà, les 5 âges différents.
Et est-ce que le suivant sera encore plus d'un niveau encore plus au-dessus?
Alors non, le but c'est pas de faire à chaque fois un niveau au-dessus, c'est de faire à chaque fois différent. Donc le prochain c'est l'âge de pierre, ça veut pas dire qu'il sera plus compliqué qu'Antiquité, c'est juste qu'il va proposer des mécaniques différentes sur une même base, quoi, pour varier un petit peu les plaisirs. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on sait jouer à un des bâtisseurs, on apprend en une minute ou deux, on apprend rapidement un nouveau bâtisseur, et les sensations de jeu sont réellement différentes.
En termes d'édition, on va être sur une édition similaire à celle des bâtisseurs Moyen-Âge, c'est-à-dire une boîte métal embossée et un tarif similaire, ou ça va changer un peu ?
Non, on reste pareil, on reste dans la même gamme, donc même gamme de prix, même type de matériel. Non, on ne change rien.
On ne change pas un succès ?
C'est ça, ouais. On reprend les mêmes recettes et on voit si ça marche à nouveau.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Non, alors là on proposait sur le festival, ceux qui jouaient au bâtisseur antiquité qui gagnaient recevaient le. On a fait un goodies trick track, donc il y a trois cartes, il y a Dr Mops, Nod et Maître Fall, plus Officine, donc les trois ensemble ils peuvent construire d'un seul coup avec un rendement maximum l'Officine. Donc on en a distribué une petite dizaine comme ça, et puis les autres sont donc arrivés chez Monsieur Fall, donc ils seront bientôt disponibles sur trick track, quoi.
Ok.
Moi j'avais une question. Vous avez fait un Takenodo surdimensionné. Est-ce qu'il y aurait d'autres idées du même type sur d'autres jeux ?
Alors non, pour l'instant il n'y a rien de prévu. C'est juste que Takenoko, de par son matériel en 3 dimensions avec les bambous qui poussent et les deux figurines, s'y prêtait bien. Il y a d'autres jeux qui s'y prêteraient pas forcément, des jeux de cartes, tout ça. Enfin, il faut vraiment, je pense, pour faire un beau surdimensionné, avoir à la base déjà un matériel un peu pléthorique. Et puis beaucoup de 3D déjà, de base.
Oui, donc c'est vraiment lié à cet aspect esthétique du jeu qui vous a conduit à faire cette version surdimensionnée, donc.
Alors, c'est un peu... En fait, ça s'est fait au départ un petit peu par hasard. C'est que en termes de communication, on essaye sur chaque jeu d'avoir une politique différente. On essaye de mettre l'accent chaque année sur un jeu. Takenoko, c'était le premier. L'idée qu'on avait eue, c'est qu'on avait fabriqué nous-mêmes une dizaine d'exemplaires surdimensionnés qu'on avait envoyés partout en France, dans les associations, qu'on avait fait tourner comme ça. Et ça avait eu tellement de succès, cette opération-là. Il y avait eu tellement de demandes de la part des ludothèques, des boutiques, etc., d'acheter une version qu'on fabriquait nous-mêmes avec notre main et qui n'était pas extraordinaire, on s'est dit pourquoi pas lancer une vraie production. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai oublié la question entre-temps. Mais...
Non, c'était très bon.
En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir consacré quelques minutes à la fin de ce festival. Fatigant comme toujours, comme tous les festivals.
De rien, merci à vous.
Merci, au revoir. Bonjour à Paris et Ludique, je suis avec Merlin et on est avec deux auteurs de SN2 Game. Salut Merlin.
Salut à tout le monde.
Et bonjour les auteurs, vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors moi c'est Fabrice Béguin.
Etienne Espreman.
Donc vous sortez bientôt SN2 Game, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Bah oui, SN2 Game c'est d'abord venu comme un gag, c'est un ami, Frédéric Delporte, qui est le troisième auteur du jeu, qui organise régulièrement des week-ends jeux en Belgique, et lors d'un week-end il m'a dit tiens on pourrait faire ça, ça pourrait être marrant, et on a commencé à cogiter là-dessus, d'abord d'un côté pour s'amuser, puis on s'est rendu compte que le jeu prenait bien, et on s'est dit qu'on pourrait demander la permission aux éditeurs pour vraiment utiliser leur logo. Et quand ils ont tous dit oui, là, on s'est senti boosté pour aller jusqu'au bout.
Ok, et donc le principe, c'est quoi ?
Alors le principe, c'est se retrouver dans le Salon d'Essen. C'est un jeu hyper thématique en fait. Hein. On s'est vraiment basé sur le thème pour le faire. Vous êtes dans le Salon d'Essen, vous êtes un acheteur et vous allez essayer d'acheter les jeux qui vont vous rapporter le plus de points en fonction de leur popularité et en fonction de la wishlist notamment que vous avez.
Comme dans la vraie vie en fait.
Comme dans la vraie vie. Et alors on est... les joueurs qui l'ont testé peuvent en témoigner. Comme au salon, on est pris par des achats compulsifs, on se retrouve très vite encombré par ces achats, donc c'est très difficile de se déplacer. Il faut absolument revenir au parking pour vider ses sacs et repartir. C'est un jeu basé vraiment 100% sur le thème.
Je confirme d'ailleurs à ma partie d'essai, j'ai même pas pu sortir du salon à la fin tellement mes sacs étaient chargés de jeux.
Oui, mais te connaissant, c'est un peu comme ça dans la vraie vie aussi.
Tout à fait.
Et donc, vous avez décidé de lancer ce projet en financement participatif via une campagne Kickstarter, c'est bien cela ?
Ben, tout à fait, évidemment, comme on a 60 éditeurs dans le jeu et qu'on avait tous les accords, on ne pouvait pas décemment choisir un éditeur pour sortir. Donc on a pris les choses en main, on a créé notre boîte d'édition et on est passé par une campagne d'autofinancement via Kickstarter pour espérer sortir ce jeu. Et pour le moment ça marche bien, on espère atteindre notre premier goal le plus vite possible et que ça continue.
Vous pouvez nous rappeler la date de fin de la campagne ?
Ce sera le 1er juillet.
Ok, donc il est presque encore le temps de... quand vous aurez ça en ligne, d'aller pledger.
Il faut d'ailleurs préciser qu'il ne sera pas édité, enfin il ne sera pas distribué dans la filiale courante, il ne sera pas dans les magasins, sauf si les magasins suivent la campagne Kickstarter. Donc le seul moyen de se le procurer, c'est via la campagne, où il y aura quelques boîtes à Essen, évidemment, mais c'est tout.
Il risque d'être vite parti, j'espère.
Il risque de partir très vite, effectivement.
Faudra pas trop en prendre pour pouvoir encore se déplacer dans le salon, alors si j'ai bien compris.
En fait, faut pas acheter les autres jeux.
Voilà. Ah, faut prendre plein de boîtes de Essen 2 Game.
Le nôtre, on a 61 jeux en une fois. Ah
bah voilà. Une des problématiques souvent sur Kickstarter, ce sont les frais de port. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui est en cours par rapport à cette problématique ?
C'est effectivement un problème. On s'est rendu compte que pour certains pays, les frais de port sont vraiment conséquents. Malheureusement, on les a réduits autant qu'on pouvait. Plus, c'est pas possible. On essaiera pour le prochain Kickstart d'étudier un peu mieux la chose. C'est notre premier. L'erreur est humaine. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que sur cette campagne, apparemment, plein de gens nous suivent. Plein de gens espèrent que le jeu sortira. nous aussi d'ailleurs, mais, et donc se proposent spontanément, disent qu'ils vont à Essen et qu'ils sont prêts à ramener des boîtes pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre au salon d'Essen et qui trouvent que les frais de port sont trop conséquents. Maintenant, les frais de port sont à 15 $, ce qui représente peut-être 11 euros.
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à laisser un commentaire sur le Kickstart pour éventuellement avoir des gens qui puissent ramener des jeux et combiner des frais, comme ça, enfin réduire les frais de port, voire les éliminer.
On est même en train, on va faire une page spéciale sur le site qui sera diffusée évidemment sur Kickstarter pour organiser tout ça. Donc ceux qui veulent se proposer nous contactent et nous on va faire un display de tout ça. Pour savoir qui veut quoi et s'arranger entre tout le monde pour arriver à une bonne synergie.
Oui, parce qu'il y a plein d'amis français qui ont... Enfin, quand je dis amis, je ne les connais pas, mais des personnes qui ont pledgé et qui se sont spontanément proposées. Mais aussi en Flandre, en Hollande, dans tous les pays, il y a des gens qui sont prêts à ramener les boîtes pour les autres. Je trouve ça vraiment... Je crois que c'est une première là, d'être avoir un tel élan. Pour un bel engouement pour que je sorte. Donc on ne demande pas mieux.
Bah nous aussi. Donc on vous souhaite bonne continuation. Vous avez quelque chose à rajouter?
Bah pledger le plus vite possible, ça nous aidera et ça vous fera plaisir certainement.
Non, et merci à vous pour cette interview.
Merci.
Et continuez de jouer.
Merci. Et bon salon. Mushroom Game. Donc on t'avait interviewé à Essen.
On avait demandé 12 000 et on en a eu 16 000.
Donc c'est bon quoi. Et donc le jeu est disponible en boutique maintenant.
Alors le jeu vient de sortir en boutique, quand je dis vient, c'est-à-dire mi-mai, on est début juin, donc 3 semaines, et l'implantation se fait plus que correctement, donc c'est très chouette.
Ok, bah c'est cool. Et tu as des nouveautés dans les cartons ou...
Alors dans l'ordre à venir, si ça marche comme je l'espère, c'est un jeu qui s'appelle actuellement Kumeo Gosha, qui a pour thème l'Asie, et qui est un affrontement entre deux joueurs... avec des cubes en bois ou pas, voilà, on est un petit peu dans la production maintenant, dans la recherche de production. Un jeu assez malin on est fort proche de ce qui se fait au niveau des échecs, mais par contre dans un thème, on est complètement baigné dans le thème de l'Asie, avec comme illustration, donc ça je peux le dire quand même officiellement, l'illustrateur sera Frédéric Genet, c'est celui qui est le dessinateur de Samouraï, la BD Samouraï.
Ok.
Oui, voilà, ça met déjà un peu le niveau du jeu et la qualité aussi est faite par Patrick et Nicolas qui sont deux auteurs à talent, peu connus car c'est leur vraiment premier vrai jeu abouti. J'aime pas mal aller chercher des premiers jeux comme ça, ça me plaît bien. Ouais.
Oui, l'auteur de Time Master, c'était également un premier jeu.
Exactement, Pierrot est venu avec plein de protos et Time Master était le premier jeu abouti. Donc ça, c'est... Donc voilà.
Et vous allez faire une campagne de financement participatif aussi pour celui-là ou pas?
Alors, oui, si je dois, car voilà, comme je l'ai dit, la campagne de... Le financement participatif est vraiment très chouette pour des gens comme moi qui débutent et donc forcément on n'a pas un cash flow nécessaire pour investir l'argent du début. De 1 et de 2, c'est bien pour se faire connaître. Donc oui, j'ai envie, je ne sais pas si ce serait Ulule ou Kickstarter, si possibilité Kickstarter, parce que le jeu n'a pas de langue, si tu veux, donc il y a juste les raies qui seront, c'est que de l'iconographie, donc ça c'est pas mal. Donc oui, Kickstarter, je permets de toucher beaucoup plus de monde. Ouais.
D'ailleurs, on avait évoqué l'aspect localisation de Time Master et on souhaitait poser des questions à Essen pour savoir si l'on allait, s'il allait partir vers d'autres langues. On en est où?
Alors, on en est que grâce au financement qu'on a dépassé l'argent là, qu'on avait demandé, du coup, on a fait 500 boîtes en anglais. Donc, elles sont sur le bateau. Elles arrivent, voilà. Elles seront là début juillet. Ces 500 boîtes vont servir à deux choses, à trois choses. La pub, la pub américaine, les blogueurs américains et des ventes aussi à Essen.
Okay. Donc, vous avez prévu d'avoir un stand cette année à Essen?
Oui, donc sur le stand à Essen, il y aura... Time Master en français, Time Master en anglais.
complet. Et il y aura le Kumo Gosha sous forme de proto fini, puisque à ce moment-là, j'aurai les élus finales, des maquettes, donc des proto finis comme j'ai l'habitude de les faire en fait quand je les monte le jeu. Et peut-être on sera déjà en financement participatif ou pas. Je ne sais pas encore si le timing concordera.
Donc on est grosso modo sur un objectif de sortie à Cannes pour ce second jeu.
Ouais, j'aimerais bien. J'ai loupé le coche avec Time Master l'année dernière, donc 2014. J'ai loupé le bateau, je veux dire ça comme ça, donc j'ai loupé Cannes. Et c'est vrai que l'idée n'est pas de vendre à outrance à Cannes parce que, bon, quelque part, voilà, on sait comment est Cannes. Mais l'idée est de montrer le produit fini, ce qui n'a pas été le cas ici. J'ai pas pu vraiment montrer la boîte finale à Cannes et là, j'aimerais bien, ouais.
Ça fait une vitrine pour le jeu, quoi.
Je n'ai pas entendu.
Ça fait une vitrine pour le jeu.
Oui, de toute façon, voilà, Cannes est un super est un festival limite incontournable, donc effectivement, ça fait une super vitrine, ouais, tout à fait. Ouais.
Encore un mot à rajouter
On a eu de la chance aujourd'hui à Paris Ludique, hier aussi, il n'a pas plu.
Ouais, du soleil.
Je rajoute ce signal, c'était rare.
Oui, bah alors bonne fin de salon et à la prochaine fois. Là.
À la prochaine, merci.
Bonjour, c'est Dédé Chutes, on est toujours à Paris Ludique et je suis avec Sébastien Dujardin de Perle Games. Salut.
Salut.
Alors comment se passe le festival ?
Il fait super beau donc tout va bien, pas de soucis.
Ok, c'est cool. Ton actualité c'est quoi ? Il y a Bruxelles, c'est ça ?
Donc oui, je présente encore Bruxelles 1893 évidemment et de nouveaux jeux à sortir bientôt. Donc de nouveaux protos. Enfin,
on peut en parler déjà des protos.
Bah, vu le nombre de joueurs qui ont joué, oui, bien sûr. Ce serait dommage. Donc il y a Deus que je sortirai à Essen probablement, qui est un jeu de moi-même. Donc je l'ai fait tout seul pour une fois. Comme un grand, qui est un petit jeu de civilisation, et l'auberge sanglante, qui est l'autre nom de l'auberge rouge, pardon, pour, enfin parce que j'avais pas le droit d'utiliser l'auberge rouge, j'ai surtout pas eu envie de m'embêter à récupérer les droits, c'était un peu complexe. Et en plus, l'auberge sanglante, ça parle aussi aux gens, je pense.
Oui, on voit bien l'image.
On voit l'idée derrière.
Donc, on va assassiner des gens. C'est pas habituel dans les jeux de Pearl Game.
Bah oui, je fais que des jeux sérieux d'après ce qu'on me dit, alors je voulais un peu changer ça. Et effectivement, on va jouer le rôle des tenanciers de l'auberge qui font partie de la même famille mais qui s'entendent pas plus que ça, donc on a chacun nos chambres. Et on va soit accueillir les clients gentiment, soit beaucoup moins gentiment, histoire de leur vider les poches. Voilà, c'est...
Ok.
Bon, ça reste un jeu de stratégie à la Pearl Games avec un thème plus détendu et des situations qui virent à l'ambiance tout en restant stratégique derrière. Quoi.
Ok.
Et c'est Nicolas Robert, l'auteur de l'auberge.
De l'auberge, ok. Et le jeu que tu fais tout seul, c'est donc un jeu de civilisation, c'est ça dans...
Voilà, je voulais un jeu de civilisation avec des cartes, mais aussi avec un plateau où on se développe sur des régions et qui soit pas très long. J'ai à peu près réussi, sauf qu'il est un peu plus long que prévu. Mais bon, ça va, je suis à 2 heures à 4 joueurs, donc une petite heure à 2. Et donc c'est un jeu de civ avec de la combo de cartes où on va pouvoir se développer sur un terrain, je vais dire à la Small World pour l'aspect on se développe sur un territoire. Et on va jouer des cartes et chaque carte sera matérialisée par un bâtiment. Et donc il y aura d'un côté notre plateau personnel où on aligne nos cartes et de l'autre côté le plateau, la carte où on se développe, où on va prendre l'espace des autres, où on va créer des villes, où on va, voilà, pour expliquer rapidement. J'espère que vous viendrez. Enfin, les deux jeux sont prévus pour SN, mais je suis pas sûr et certain. On verra bien comment ça se déroule.
De toute façon, nous, on sera à la SN, donc on viendra tester ça.
Je vous attends avec plaisir.
Ok, merci. Bah, bon festival encore.
Merci bien. Et à SN, alors, pour ceux qui sont pas ici.
Ouais, à SN. Bonjour, Dédé Chutes pour Proxy Jeux en direct de Paris Ludique. Je suis avec Olive et Mike, les organisateurs de Paris Ludique.
Alors, Paris Ludique, comment c'est venu? Vous avez lancé ça?
Par hasard.
Bonjour, oui, c'est une bonne réponse. En fait, on est une association qui s'appelle les Brunchs du Club et on organisait fréquemment, une fois par mois, des journées jeux le dimanche dans des restaurants, d'où le terme brunch en fait. Un dimanche en mieux, c'était le slogan de l'époque. Et on invitait un éditeur à présenter sa nouveauté tous les mois. Et par ailleurs, on a organisé aussi les premiers championnats de France de Molki, qui est un jeu de quilles finlandais, sur ce boulot de Rome ici. Et en fait, c'est la conjonction de ces deux événements, l'opportunité de pouvoir faire quelque chose dans ce lieu extraordinaire, un hectare de verdure à Paris, il n'y en a pas des masses, et le contact, on va dire, avec un certain nombre d'éditeurs, dont Cocktail Games et Days of Wonder, qui sont les premiers à nous avoir dit, tiens, si vous voulez faire, enfin, on leur a demandé si on fait un festival, est-ce que vous venez? Et voilà, c'est devenu les parrains du festival comme ça, en disant bah oui, allez-y, on vous suit, et vous pouvez dire aux autres qu'on vous suit. Et voilà, il y a la première édition, il y avait 20 exposants, cette année ils sont 80.
Oui, ça a bien grandi. Moi j'étais venu il y a 2 ans et ça a bien grandi.
Oui, ce qui est sympa, c'est la progression, on va dire, proportionnelle, c'est-à-dire que tout grandit en même temps. Le nombre de tentes, le nombre de tables, le nombre de chaises, le nombre de visiteurs, le nombre d'exposants, le nombre de bénévoles. Et en fait, ça fait tout le temps un festival cohérent, en fait. Les 4 années étaient assez cohérentes les unes par rapport aux autres, quoi. Une belle progression qui permet quand même d'avoir des réflexes des années précédentes pour assurer quand même la présence de plusieurs milliers de personnes ici aujourd'hui.
Et c'est combien de bénévoles pour...
Alors cette année, c'est 80. Et comme le disait Olive, ça a progressé, ça a été 20, 40, 60, 80 à peu près. Et donc on commence à être un petit peu nombreux. Donc maintenant il y a des bénévoles qui prennent le lead sur leurs équipes. Donc ça commence à s'organiser un petit peu. Ça reste très très artisanal. Mais on a une équipe tournoi qui gère ses plannings, ses choix de tournoi, ses petits trucs. On a l'équipe des jeux de demain qui fait ses sélections, des protos et qui gère l'espace. On a l'équipe des jeux à volonté qui fait plein de soirées pour apprendre des règles et connaître les 350 jeux qu'il y a dans l'espace. On a des bénévoles qui sont depuis 4 ans à l'accueil et qui du coup disent faut faire ceci, faut faire cela, faut qu'on arrange des petits trucs, ce qui fait qu'on progresse avec toutes les petites idées de chacun.
Et alors il reste un point noir, c'est la buvette. Parce qu'il y a beaucoup de queues. Faut le savoir, c'est le tips proxy jeu pour l'année prochaine. Prévenez, commencez à 10h pour aller manger.
Ouais, le snack c'est toujours le point noir. On a pas mal progressé, mine de rien, mais on ne maîtrise pas tout. Et on est obligé de faire gérer la buvette par quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour gérer ça, et que nous on se concentre sur le jeu, et on n'a pas envie de demander à des bénévoles de faire des trucs qu'ils n'ont pas envie. Et sûrement ils voudraient
ils déjà assez comme ça.
Ils en font déjà assez comme ça, parce que mine de rien, il y a des poubelles à vider, il y a des tables à déplacer, il y a des trucs qui sont pas toujours rigolos dans les coulisses. Et oui, on insiste, on fait du. Voilà, on passe le message. Mais il y a toujours un peu de queue. Après, l'année dernière, on était descendu à un quart d'heure max. Cette année, j'ai entendu qu'on était dans les 20-25 minutes à l'heure de pointe.
Bon, c'est la rançon du succès.
Oui, on se dit que si c'est le seul problème, ça va. Et en général, il y a la météo qui va avec. Et là, cette année, jusqu'à maintenant, on s'en sort bien, donc ça va.
Oui, c'est un peu menacé, mais finalement, il fait quand même très bien.
Sur le snack, il faut savoir qu'on est assez dur avec les partenaires qui s'occupent du snack et de la buvette, c'est-à-dire qu'on leur impose des demi à 2 euros, des sandwichs pas chers, ce qui fait qu'ils, pour garder un esprit quand même grand public et ouvert à tous, quoi. Et ça, c'est difficile pour eux aussi de pouvoir mettre beaucoup de monde. C'est-à-dire que si la demi était à 3 euros, il y aurait peut-être une personne de plus, on aurait attendu moins longtemps. Faut trouver le bon curseur, c'est pas évident.
Le juste milieu. Et sinon, vous avez déjà des nombres d'entrées, combien vous avez fait ce samedi après-midi?
Ouais, c'est un petit peu dur à compter en live. Là, on doit être dans l'ordre des 3000 entrées en milieu d'après-midi ce samedi.
Ok, ouais,
il y a une heure, il y a vers 4 heures. qu'il reste encore une bonne partie de... des gens. En fait, il faut savoir que autant les joueurs sont là depuis 10h ce matin, même j'en ai vu à 8h30, mais la famille parisienne se balade. En fait, elle vient, elle fait le tour des stands, elle repart. Il reste une heure ou deux. Donc là, voilà, en fin d'après-midi, il y a encore des gens qui rentrent. Et voilà, on pourra faire un vrai point qu'à la fin du week-end.
Oui, c'est assez familial comme ambiance comparé à Essen où c'est plus gamer. Quoi. Là, c'est assez familial, c'est sympa.
On essaie de mélanger tous les styles de jeu, tous les styles de public. Ça va vraiment de à la fois les jeux pour les enfants, les jeux pour les core gamers, comme on dit, avec même effectivement des éditeurs qui font des jeux sur Essen. Donc c'est le après la... voilà la... c'est vraiment très très varié et dans les styles de jeu et dans les styles de joueurs, ce qu'on aime bien.
Ok, quelque chose d'autre à ajouter? Que la météo reste comme ça,
voilà,
pour demain.
On est quand même pas. Oui, ça va. Ça va être de mieux en mieux, je crois, en plus. Et on a dû éviter, j'espère, croisons les doigts encore, on a dû éviter les orages de l'après-midi. Donc, voilà.
On a et en plus, il fait pas trop chaud, donc on
et
peut
on
jouer.
Bien, on peut jouer toute la journée. Voilà.
Ok, bah merci. Et à peut-être à l'année prochaine.
Avec plaisir.